Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail. Live and let die.
Des tournées de légendes de groupes de rock, il y en a eu, mais des tournées catastrophes, c'est plus rare. La tournée conjointe de Metallica et de Guns N' Roses millésime 1992 a été présentée sur Twitter comme un échec d'importance, et c'est vrai, c'est d'ailleurs le super fail de la semaine.
Ils ne viennent pas à ce spectacle pour y trouver une chose précise. Le fait de mettre ces deux groupes sur la même scène et donner la possibilité de voir les Metallica et les Guns N' Roses pendant 5 heures, c'est... Chacun viendra chercher quelque chose de différent. Certains voudront se laisser aller après une semaine difficile au travail ou des problèmes personnels. Chacun veut se débarrasser de ses anxiétés. Nous espérons pouvoir les aider et éviter ainsi qu'ils se défoulent sur leur maison ou leurs parents.
Et tout d'abord, on écoute Joe Hume nous présenter ces deux groupes de rock au sommet de leur gloire en 1992.
Si on se replonge dans cette fameuse année 92, on a quand même deux des plus grands groupes du monde à cette époque, des plus gros vendeurs d'albums aux États-Unis de l'année 1991 et 92. Metallica, donc, qui existe depuis le milieu des années 80, qui est le groupe qui a démocratisé, on va dire, la musique métal au tournant des années 80 et 90, particulièrement avec leur album de 1991, qu'on appelle le Black Album, qui est l'album à la pochette noire de Metallica, l'album éponyme, qui va s'écouler à 30 millions d'albums en 1991. Donc Metallica marche sur l'eau, clairement, à cette époque-là de leur carrière. Et de l'autre côté, on a Guns N' Roses qui, eux, en 1992, sortent deux albums coup sur coup, Use Your Illusion 1 et 2, qui occupent respectivement la première et la seconde place des charts aux USA. Donc autant dire que lorsqu'en 1992, l'annonce d'une tournée commune Metallica-Guns N' Roses tombe, c'est presque un événement sans précédent dans l'histoire du rock aux États-Unis.
Problème, Metallica et Guns N' Roses sont deux groupes extrêmement différents. Metallica fait très attention à sa relation avec son public, depuis toujours. Au contraire, les Guns N' Roses sont connus pour ne pas être à l'heure, et ça va constituer le premier obstacle au bon déroulement de cette tournée.
Exactement, c'est le problème qui n'était certainement pas étranger aux fans des Guns N' Roses, qui régulièrement se pointaient en retard à leurs concerts, généralement juste à temps pour éviter l'amende qui tombait quand un groupe commençait trop en retard son concert, mais ça leur arrivait quand même régulièrement. Et lors de cette tournée commune, ce qui est délicat, c'est qu'on a un groupe de première partie qui s'appelle Faith No More, qui est un groupe de rock américain un petit peu avant-gardiste, qui commence à se faire une petite notoriété à l'époque, qui ouvre pour Metallica, qui ensuite enchaîne, et ensuite c'est les Guns N' Roses. Et lorsque le concert de Metallica se termine, ça fait déjà un petit moment que des dizaines de milliers de fans sont amassés dans des salles pour voir ce concert. Et les Guns N' Roses se permettent malgré tout d'arriver en retard, alors que ce sont eux la tête d'affiche et qu'il y a eu deux concerts avant eux, et que donc la soirée est bien entamée. Ce qui fait que les retards à répétition des Guns N' Roses, qui sont invariablement dus à la vie dissolue de leur leader Axl Rose, finit par taper sur le système des tourneurs, des groupes qui partagent l'affiche avec eux, mais également des fans de Metallica, parce que forcément, ces concerts-là réunissent un mélange de fans des deux groupes. Et autant il y en a une partie qui aime Metallica et les Guns N' Roses, autant ceux qui viennent vraiment pour Metallica ont encore la possibilité de partir avant la fin du concert, puisque Metallica joue avant les Guns, mais la plupart restent, mais se montre relativement exaspéré par les retards à répétition des Guns.
Autre problème, une tournée généralement c'est fait pour gagner de l'argent, mais les Guns N' Roses sont tellement dépensiers qu'ils la transforment en un véritable gouffre financier.
Si on doit faire un bilan des bénéfices pour les deux groupes. Metallica a non seulement pas redoré, parce qu'il n'avait pas besoin de redorer, mais a encore amélioré la qualité de son image vis-à-vis de son public et a fait des bénéfices sur cette tournée. De l'autre côté, on a les Guns N' Roses qui vraiment ont perdu en crédibilité dans le milieu sur cette tournée parce que l'attitude catastrophique d'Axel et, il faut bien le dire, la nonchalance du reste du groupe n'a pas aidé à leur donner une image de groupe solide, on va dire. Et en plus de ça, le train de vie d'Axel Rose, qui organisait des soirées à thème à chaque fin de concert en backstage, qui était une sorte de panier percé en fait, a entamé de manière significative les recettes pour les Guns N' Roses, qui vraiment ont perdu de l'argent ou en ont gagné beaucoup moins que ce que Metallica a pu engranger.
On écoute Slash, guitariste de Guns N' Roses, et Lars Ulrich, batteur de Metallica, dans une interview donnée sur Musique Plus avant leur concert à Montréal en 1992.
Allez au spectacle et ayez de la considération pour les autres. Je ne tolère pas la violence, elle n'a pas sa place dans nos spectacles.
Je ne comprends pas ces gens qui vont à des concerts voir leur groupe préféré et qui manifestent leur plaisir en lançant des objets aux musiciens.
Ou encore ceux qui se mettent à taper sur leurs voisins. Je me demande parfois ce que ces gens-là ont dans la tête.
Restons calmes et faisons de ce spectacle un succès.
Le pire du pire dans cette tournée de cauchemar a lieu le 8 août 1992 lors d'un concert à Montréal. On écoute Joe Hume nous raconter cet épisode.
Une tournée donc en Amérique du Nord avec deux passages au Canada. Il y en a un qui va se dérouler un petit peu plus tard à Toronto et il y a celui du 8 août au Stade Olympique de Montréal. Un stade qui peut contenir un peu plus de 50 000 personnes, je crois que c'est 55 000 personnes qui sont réunies pour ce concert, qui est très attendu, comme toute cette tournée. Hein. De toute façon, les places se sont vendues très très vite, tous les shows affichent complet, et celui de Montréal voilà, ne fait pas exception. Tout se passe bien jusqu'à une heure à peu près après le début du concert de Metallica. Metallica développe un show scénique qui repose en partie sur des effets pyrotechniques. Et en milieu de tournée, l'emplacement des effets pyrotechniques change sur scène. Et la première date durant laquelle ces changements de placement des effets est effective, c'est la date de Montréal. Et il y a le leader de Metallica, James Hetfield, qui n'est pas encore totalement habitué à ces nouveaux placements sur scène, qui sont assez contraignants. C'est comme au cinéma, on a des marques au sol et on ne doit vraiment pas trop bouger parce que sinon, il y a des risques pour la sécurité des personnes qui sont sur scène. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, sans le faire exprès, James Hetfield marche sur un effet pyrotechnique et l'enclenche. Cet effet pyrotechnique, donc, le brûle sévèrement. Hein, c'est des brûlures au premier et au deuxième degré qui partent de sa main, la main qui tient le médiator de sa guitare et qui remonte jusqu'à la moitié de son visage. Ils sont obligés d'arrêter le spectacle et la grande majeure partie du public ne comprend pas exactement ce qui se passe sur scène. Donc, au début, tout le monde est un petit peu hébété. Un silence de 10 minutes s'ensuit et les membres de Metallica, sans James Hetfield, remontent sur scène et c'est le batteur Lars Ulrich qui prend la parole et qui annonce qu'un effet pyrotechnique s'est déclenché alors qu'il n'aurait pas dû, que James Hetfield a été blessé, que les médecins ont déterminé qu'il était impératif qu'il soit emmené aux urgences, donc il a été évacué de la salle. Il s'excuse platement auprès de tous les fans, assure que le groupe reviendra pour un concert dans les semaines qui viennent, et quitte la scène. Et le public est plutôt empathique, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'effectivement, il y a eu un accident, que le concert est écourté. Metallica, faisant les choses comme ils savent le faire, s'assure de la bonne conduite de cette fin de concert un peu prématurée. Et on attend maintenant les Guns N' Roses.
Les Guns N' Roses auraient pu sauver, bien sûr, ce concert, mais c'était compté sans Axl Rose, qui a décidé de faire attendre le public des heures et qui ensuite consacre 45 minutes de son temps précieux au concert, pas une minute de plus, prétextant une extinction de voix. Le concert est écourté, le public furieux, tout cela dégénère en émeute. Un extrait du documentaire diffusé sur MTV en 1992.
Cette journée heavy metal s'est vite transformée en cauchemar quand Axl Rose a quitté la scène après 50 minutes de spectacle sans aucune raison. Malheureusement pour la majeure partie des 57 000 fans, une poignée d'entre eux ont cru bon de saccager tout sur leur passage et ont laissé le stade dans un bien piètre état. Contrairement à la rumeur qui courait, Donald K. Donald ne remboursera pas les billets.
Évidemment, la pilule a du mal à passer vis-à-vis du public qui, au fur et à mesure des minutes qui passent et jusqu'au moment fatidique où les écrans de la salle affichent que le spectacle a été officiellement annulé et que le public doit se diriger vers la sortie. C'est clairement une émeute qui, petit à petit, démarre dans la salle, va se répandre jusqu'aux alentours de la salle avec les stands de merchandising qui sont renversés, dévalisés, du matériel technique brisé, des fans qui montent sur scène et qui mettent à sac toute la scène du Stade olympique de Montréal et à l'extérieur du stade, des incendies qui sont déclenchés, plus de 300 policiers, forces de l'ordre, qui sont dépêchés sur place parce que le service de sécurité du stade ne peut pas contenir l'hémorragie. Pendant ce temps, les deux groupes sont coincés dans les coulisses. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être évacués parce que c'est l'émeute autour de la salle. La sécurité dit « bah non, vous allez devoir rester dans les backstage ». De leur côté, les membres de Metallica sont désespérés. Ils se disent que voilà, la situation leur échappe totalement. Et en face d'eux, ils ont les membres des Guns N' Roses, et particulièrement Axel, qui a une cigarette à la main, un verre de champagne qui ne désemplit pas dans l'autre, et qui les regarde en disant « non mais vous comprenez, j'ai mal à la gorge ». Et qui clairement se désintéresse totalement de la situation. Donc c'est un événement qui cristallise toute la différence de professionnalisme qui, à l'époque en tout cas, caractérise ces deux groupes.
La morale de cette histoire, c'est que 1 plus 1, ça fait parfois cata. Un concert de Metallica, bien sûr, très bien. Un concert de Guns N' Roses, pourquoi pas, mais les deux à la fois, surtout pas. Superfell a été ruiné à la production par Juliette Devaux, dévasté à la technique par Marie-Claire Oumabadi, et enfin dévasté à la réalisation par Vivien Demeyer et Félicie Faugère.
Superfell.
Le podcast Enquête d'idées repose sur une idée simple. Les idées, comme les personnages, ont une vie. Elles naissent, se transforment, se marient parfois. Enfin bref, vous avez compris l'idée.
Guillaume Erner.
Ce podcast est donc la première tentative de traiter une idée comme un organisme vivant et agissant. Et pour débuter cette série, j'ai choisi de traiter une notion qui est littéralement partout, conjuguée sous toutes ses formes, la résilience.
Enquête d'idées, la résilience, un podcast en 4 épisodes de Guillaume Erner et Éric Lancien sur franceculture.fr et l'appli Radio France.